Bonsoir. Situation sécuritaire au Nord Kivu. Le facilitateur du processus de Nairobi, Uhuru Kenyatta, a appelé hier mercredi 12 juillet à Goma tous les groupes armés, y compris le M23, à cesser les hostilités et à déposer les armes avant tout dialogue. L'ancien président du Kenya a lancé cet appel lors des travaux du groupe technique des travaux du processus de Nairobi. Le facilitateur Uhuru Kenyatta appelle toute la population à soutenir ce processus et insiste sur le dialogue comme voie des solutions durables à cette crise qui a provoqué des conséquences indescriptibles. Au cours de ces travaux, il était question d'évaluer la mise en œuvre des décisions prises le 30 juin à Nairobi en rapport avec le début effectif des opérations de démobilisation et des précantonnements des rebelles du M23. Cependant, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a souligné que la situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain reste très complexe et préoccupante. Quelle lecture faites-vous de l'évolution du processus de Nairobi pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 13 juillet 2023. Participe au débat Timothée Chaombo-Soucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Timothée Chaombo, bonsoir.
Bonsoir Madame Félicité, bonsoir à tous les auditeurs des radios Capi.
Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Il est expert des questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut à l'Est d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Frédéric Amani, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs des radios Capi.
Et Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Jonas Tchombela, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les co-débatteurs ainsi que les auditeurs de Radio Capi.
À Goma au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal Plus, channel 572. Vous pouvez aussi nous suivre via la page Facebook de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
En Nord Kivu, le groupe technique de travail dans les cadres du processus de Nairobi a clôturé sa deuxième réunion hier mercredi à Goma. Il était question d'évaluer la mise en œuvre des engagements pris par toutes les parties, notamment le gouvernement congolais, la force régionale de l'EAC, la MONUSCO et d'autres structures régionales impliquées dans ce processus. Ce sont ces parties qui doivent réunir les conditions pour entamer les opérations de pré-cantonnement, désarmement et démobilisation des rebelles du M23. Dans son mot de clôture, le facilitateur Uhuru Kenyatta a appelé toute la population à soutenir ce processus et a insisté sur le dialogue comme voie des solutions durables à cette crise qui a provoqué des conséquences indescriptibles. Depuis Goma, Sifa Maguru nous en dit plus.
Rien n'a été déclaré officiellement par rapport aux questions de fond du processus. C'est notamment pourquoi les rebelles ne sont pas encore arrivés à ce jour au lieu du pré-cantonnement à Rumangabo et comment concrètement va se dérouler ces opérations de désarmement des rebelles du M23. Ce que l'on sait est que le gouvernement congolais aurait déjà rempli sa part en viabilisant les sites. Du matériel continue à être acheminé sur place. Les troupes du Kenya et du Sud-Soudan de l'EAC seraient déjà déployées également sur les lieux pour sécuriser les occupants du site, a-t-on appris des sources du gouvernement. Par ailleurs, les facilitateurs du processus, l'ancien président Uhuru Kenyatta, désigné comme intermédiaire entre le processus de Nairobi et les responsables du M23, est chargé de communiquer toutes ces informations au M23 et de les persuader à se rendre à Rumangabo. D'autres sources nous ont affirmé que les détails de ces cantonnements seront discutés au niveau provincial entre les autorités gouvernementales et la MONUSCO à travers le DDR. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Merci Sifa Maguru pour tous ces détails. Timothée Chaombo-Soucha, je rappelle que vous êtes chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain en Belgique. Vous venez de suivre là notre reporter depuis Goma qui nous a parlé un peu de ce qui s'est dit lors de la réunion d'hier des travaux du groupe technique du processus de Nairobi, le facilitateur du processus de Nairobi où Kenyatta appelle les groupes armés, y compris le M23, a déposé les armes, a cessé les hostilités avant tout dialogue. On sait que ce n'est pas le premier appel du facilitateur, un appel qui n'a jamais été entendu par les groupes armés. Pensez-vous que cette fois-ci, les groupes armés vont exécuter ou vont accepter de déposer les armes comme demandé par le facilitateur?
Merci infiniment, madame. J'aimerais saluer mes co-débatteurs, mais avant aussi de commencer, présenter ce que j'ai appris avec consternation, l'assassinat odieux de l'honorable député national Chérubin Okende, qui est un grand frère que je connais personnellement, avec qui on a évolué dans beaucoup de choses, quelqu'un qui est humble, qui n'est pas conflictuel et qui laisse sa famille. Je présente les condoléances à l'ensemble des Congolais, parce que c'est un député national, mais aussi à sa famille, tant biologique que politique. Je reviens à votre question et à la thématique de ce soir. Le problème, c'est que bon, oui, nous attendons bien, comme vous l'avez dit, c'est encore un appel de plus de la part du facilitateur Uhuru Kenyatta. Et comme vous avez attendu le reportage de votre correspondant au Nord Kivu, tout est au conditionnel. Le gouvernement aurait et que le M23 aurait le La question, l'appel du facilitateur risque d'être comme les autres différents appels que nous avons connus jusqu'ici, parce que il n'y a pas le jus puniendis, la force des contraintes pour rééquilibrer ou équilibrer les rapports de force. Parce que pour amener les parties à la table négociation, il faut que les rapports de force soient d'un côté ou d'un autre. Ça, c'est un premier élément. Un second élément qu'il faut soulever ici, madame, c'est que il y a trois déclarations. La déclaration de Uhuru Kenyatta appelle aux négociations, mais demande quelque part au M23 de déposer les armes, comme beaucoup d'autres groupes armés qui ne posent pas, je veux dire, énormément de problèmes, des conditions comme le M23. Uhuru Kenyatta parle de négociations, mais il faut déposer les armes. Le M23, quant à lui, parce qu'il y a des déclarations du commandant de M23, Sultani Makenga, qui lui a parlé d'abord d'un dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa. C'est qu'il y a une position totalement radicale et que le cantonnement, le pré-cantonnement ne les concernait pas. Voilà. Troisième déclaration, c'est celle du gouvernement de Kinshasa. Vous avez suivi l'interview du président de la République dernièrement, que ce soit lors de l'arrivée de son homologue sud-africain, le président parle de la délocalisation et du cantonnement dans les Maniema du M23. Et le M23 est continué à être qualifié par le gouvernement congolais de mouvement terroriste. Pour quelles raisons nous sommes dans cette impasse? Parce que d'une part, le M23 se trouve dans une situation où il porte les chapeaux d'un mouvement terroriste. Dans les théories, dans les pratiques, dans le concept, le mouvement M23 ne se considère pas comme un mouvement terroriste et cette situation les met en difficulté de venir à la table de négociation. Le gouvernement congolais aussi se trouve dans une situation où, dans le narratif qui était le sien, et narratif est pourtant soutenable, qui est vrai, la RDC est agressée et que plusieurs rapports établissent que le Rwanda soutient logistique comme en humain, en élément, le M23, mais l'incise, le qualificatif, parce que dans les négociations complexes, madame, le qualificatif risque de compromettre et mettre le dialogue dans l'impasse. Le fait que le gouvernement congolais ait qualifié le M23 de mouvement terroriste pose problème, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement craint de dire pour venir négocier avec un mouvement dont il a qualifié hier de terroriste. Parce que en réalité, lorsqu'on négocie, on négocie soit en position de force, soit en position de faiblesse.
soit qu'on est en position égale. Dans le contexte actuel, le gouvernement, certes, n'est pas en position couchée, mais le gouvernement, dans l'obligation de contrôler, de rétablir et d'établir l'autorité du pouvoir sur toute l'étendue du territoire national, n'arrive pas à contrôler les territoires dans lesquels le M23 exerce son autorité. Donc le gouvernement est en situation de faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on négocie, finalement, on se pose la question, bon, voilà, qu'est-ce que je vais perdre en perdant ma face? Qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne? C'est que le gouvernement gagnerait en acceptant, parce que au sein du M23, il y a des Congolais qui n'iront pas au Rwanda, qui n'iront pas en Ouganda. Donc ces Congolais, au regard même des déclarations du président de la République, doivent bénéficier du processus de démobilisation. C'est que même pour un oui ou un non, il y a toujours négociation. Même lorsqu'on sert à nos enfants à manger, il y a toujours négociation. Négocier, c'est tous les jours, c'est en tout moment. Même lorsqu'on nous a convoqués pour cette émission, on a parlé, on a débattu à quelle heure, ce sera comment. Les négociations ne sont pas une honte.
Et vous encouragez donc le gouvernement à pouvoir négocier avec le M23 comme le souhaite d'ailleurs le facilitateur Uhuru Kenyatta. Il n'est pas le seul d'ailleurs à proposer le dialogue pour comme voie des solutions durables à cette crise. On a suivi le président Ruto qui l'a dit aussi, les présidents kenyans. On a suivi le président de la Commission africaine qui est revenu aussi sur ça. Vous encouragez donc le dialogue.
Madame, dans toutes les crises du monde, dans les guerres, que ce soit ou les crises, les conflits en basse, moyenne intensité ou à haute intensité, qui sont les premières, deuxième guerre mondiale, les guerres de féodalité, toutes les guerres qu'on connaît, finissent toujours soit par un dialogue, soit par la victoire de la force qui prendra les dessus, soit par un dialogue, par des négociations. Et donc, le président de la République, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, avait et a toujours sur sa table trois options. L'option politique, il a proposé les mécanismes de démobilisation. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des éléments qui sont congolais. Au sein du M23, c'est nos enfants, on ne va pas les jeter. Comme le président a dit, au cas par cas, c'est un dialogue. On établit un lien avec eux pour dire, venez, faites-vous une reddition. Alors, au deuxième cas, parce que ceux qui vont venir à la table de négociation, ça va se passer comment? C'est toujours par des facilitations. Donc, oui, le dialogue, l'option politique est là. L'option diplomatique, le président Uhuru Kenyatta est sur nos portes, comme beaucoup d'autres chefs d'État, le EAC aussi, pour lequel nous ne croyons pas trop, mais aussi il y a l'option militaire. Donc c'est au gouvernement congolais de choisir quelle option, parce que la souveraineté de l'État, la sécurité, la défense, on ne peut pas la sous-traiter. Le président de la République reste le commandant suprême, il a son gouvernement, ils ont tous les moyens, le budget qu'il faut, soit qu'ils écrasent un mouvement qu'ils considèrent comme terroriste et récupèrent par la force de feu nos territoires, soit qu'ils donnent, je ne dis pas qu'ils fassent des compromissions, qu'ils ouvrent un peu de vannes pour proposer l'issue de sortie de crise par quelques conditions. Ceci peut donner l'impression que le gouvernement fait le rétropédalage et que le gouvernement perd la face, mais non, le gouvernement donne la chance à la paix, parce que, je termine par là, le président de la République a dit plusieurs fois, et même les différents députés avec qui nous avons fait des débats ici, à un moment donné, le FRDC hésite de faire des opérations, parce que le M23 prend la population en otage, que les bombardements qui vont se faire sur les villages, où se trouvent des populations civiles. C'est une question complexe, ce n'est pas une honte de négocier et donner la chance à cela. Le choix du qualificatif terroriste n'a pas été le meilleur, parce que le M23, contrairement à Al-Qaïda, à Boko Haram, à Mujahou, à ADF Nalu, etc., le M23 a un territoire connu avec un état-major militaire, avec un état-major politique, avec des émissaires, avec un numéro vert. Je ne suis pas du tout le porte-parole de ces groupes criminels, mais c'est un mouvement qui est connu, un mouvement qui est un mouvement armé, qui est un mouvement rebelles, parce que beaucoup d'éléments de M23 viennent de FARDC.
Merci.
Certes, le M23 est soutenu par le Rwanda, mais lui coller l'étiquette du mouvement terroriste complique les négociations.
Merci. Voilà. Alors, il y a Jérémy Aroussi qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Capi, qui trouve que ce processus est amorcé. Comment organiser un précontournement sans dialogue politique? Pourquoi le gouvernement de Kinshasa ne veut pas un dialogue politique? Pourtant, sans dialogue, aucun processus de paix ne peut aboutir. Il vous rejoint un peu dans votre analyse tout à l'heure, Timothée Tshaombo. 30 secondes.
Oui, madame, mais c'est ce que nous avons dit tantôt, que ce soit pour le dialogue que nous faisons ou vous dirigez les débats. C'est un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a celui qui fait le police de mission. Vous faites un peu la médiation, comme au Uhuru Kenyatta, avec mes co-débatteurs. C'est exactement cela. Que ce soit le pré-cantonnement qui peut se faire à Rumangabo, quelles sont les garanties? J'attends parler par votre reporter que le gouvernement aurait fait sa part en emménageant le site
et puis
qu'il y a une armée qui va voilà, le site de Rumangabo, qui est un site de pré-cantonnement avant leur transfert à Kindu, dans le Maniema, je veux dire. Oui, mais cela, il faut qu'il y ait, à travers notre ministre, la coopération et l'intégration régionale Antipas Nyamwisi, avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, voir dans quelle mesure prendre à la fois les considérations, les remarques, les suggestions qui sont faites par Uhuru Kenyatta, et qui viennent aussi du M23 et transmettre au commandant suprême qui va apprécier.
Merci.
Et qui va donner de parce que ceux qui négocient n'ont pas le pouvoir de décider. C'est soit l'état-major du M23 qui décide, et de l'autre côté, c'est l'état-major, le commandant suprême qui décide. Et donc, oui, ici, nous ne pouvons pas mettre le M23 au même pied d'égalité qu'un gouvernement de la République, mais oui, les rapports de force font que, oui, le M23 contrôle des territoires, et donc le RDC, quelque part, a perdu la corne. Et donc, il faut parler et voir dans quelle mesure, au cas par cas, savoir le pré-cantonnement et ensuite orienter dans la voie pacifique définitive.
On vous garde encore dans cette émission, Timothée Tshaombo. Le temps pour nous de donner la parole à Frédéric Amani, qui est chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi, l'expert des questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut à l'Est d'Afrique, basé à Dakar, au Sénégal. Frédéric Amani, votre lecture, sur ce énième appel du facilitateur Uhuru Kenyatta pour que les groupes armés déposent les armes avant tout dialogue.
Merci beaucoup pour la parole, Madame Kelly. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir à mes co-débatteurs, cher Timothée Tshaombo et M. Jonas Tshombela, ainsi que les auditeurs de Radio Okapi. J'ai fait aussi mienne les condoléances apportées à la famille de l'honorable Chérubin Okende. Nous déplorons cela et nous pensons que l'État va diligenter des enquêtes pour trouver les récalcitrants. Paix à son âme. Alors, quelle lecture? Moi, je pense que voici ma lecture, madame, par rapport aux propos du facilitateur Uhuru Kenyatta. Je pense que une fois de plus, l'EAC, cette organisation à laquelle la RDC appartient, a échoué à apporter son soutien à un pays membre, mais surtout l'échec de la force régionale à apporter le soutien dans le rétablissement de la paix et de la sécurité dans cette partie meurtrie. Pourquoi l'échec? Parce qu'il vous souviendra que la force régionale de l'EAC a été déployée à l'est de la RDC, entre autres pour mission d'arriver à contraindre le M23 au cas où ces groupes refuseraient de cesser les hostilités et à la réduction des armes. Mais même un ultimatum a été donné, mais le délai de cet ultimatum avait expiré, mais rien n'a été fait. Et aujourd'hui, le facilitateur, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, est revenu au format des dialogues, mais aussi des cessez-le-feu. Des discours qui, à mon avis, semblent être contradictoires. Contradictoires dans la mesure où, tant que, je crois, mon co-débatteur, mon frère Timothée, est revenu là-dessus, tant qu'il n'y a pas un rapport de force sur terrain d'égal à égal, eh bien, le M23 n'accepterait pas la reddition parce que l'occupation de ces zones et l'ouverture des hostilités lui donne, si vous voulez bien, une position de force vis-à-vis du gouvernement. Et que, en demandant au M23 de cesser les faits et de déposer les armes, sans que ces préalables soient acceptés, je crains qu'on soit en train de tourner à rond. Et Dédé, lui-même, le facilitateur, demande un dialogue. Est-ce que, puisqu'il est facilitateur, donc il a la possibilité d'entrer en contact avec le gouvernement congolais et aussi le M23. Est-ce que le gouvernement congolais est-il aussi prêt au dialogue? Et quel dialogue? Je pense ici, madame, c'est l'occasion de préciser. Je crois que dans toute société moderne, le dialogue est une vertu. Et toutes les crises ou toutes les guerres se terminent par soit la victoire d'un vainqueur ou un dialogue. Mais je crains que le dialogue proposé par les facilitateurs ouvre une brèche à d'autres groupes rebelles qui se sentiraient, entre parenthèses, lésés, et que demain après demain, d'autres groupes rebelles risquent de se créer avec l'idée qu'il y aura une facilitation qui sera mise en place et on viendra nous négocier et nous serons sur la table des négociations et nous allons poser nos conditions. D'où je pense que le dialogue, oui, mais il faudrait que le gouvernement congolais et les facilitateurs précisent le format de ces dialogues, sinon on risque encore de réduire la RDC à une position inférieure et ce sera encore une lamentation après.
Alors, pour le gouvernement congolais, pas question de dialoguer avec le M23 tant que ils n'auront pas déposé les armes et tant qu'ils n'auront pas accepté le précontentement. C'est ça la position du gouvernement congolais. Ils doivent déposer les armes, libérer les localités qu'ils occupent, accepter les précontentements. C'est à ces conditions seulement que le gouvernement pourrait voir dans quelle possibilité négocier ou rencontrer le M23 pour échanger.
Mais madame, nous pensons que, et je respecte bien le point de vue du gouvernement et aussi celui du facilitateur, même du M23. Mais je crains qu'on soit en train de tourner à rond. Pourquoi? Le gouvernement exige le dialogue à condition que le M23 accepte de déposer les armes et le précantonnement. Mais est-ce que le gouvernement aussi acceptera, excusez-moi, je répète aussi les mots de M. Timothée, je ne suis pas non plus porte-parole du M23, mais quand le gouvernement donne des conditions dans lesquelles ça risque encore de lui donner un piège, parce que si le M23 acceptait de déposer les armes et qu'il pose les conditions sur table auxquelles le gouvernement ne saura pas à accéder ou répondre à cela favorablement, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que au lieu de tourner à rond, au lieu d'aller des travaux en travaux, moi je pense que il est plus que temps pour le gouvernement congolais de se réformer une armée et de réformer ses institutions. Ça c'est de un. De deux, je crains que le gouvernement se mette dans un piège. Pourquoi? Parce que le M23 qui a été qualifié d'un groupe terroriste et accepte de déposer les armes, alors qu'on ne négocie pas avec un groupe terroriste, on devrait négocier avec un État agresseur qui est le Rwanda, cité dans les rapports d'experts des Nations Unies et par le gouvernement congolais. Puisque c'est le Rwanda, et je vais aller plus loin, même l'Ouganda qui est en tête et qui soutient le mouvement M23, je pense que si dialogue il y a, c'est avec ces États qui devraient aussi dire à leur poulain, excusez-moi l'expression, de se retirer. Ça, c'est de un. Alors que le M23 qualifié de terroriste sur la table des négociations avec un gouvernement et que parmi leurs desiderata, c'est d'intégrer l'armée ou de considérer les grades. Les terroristes d'hier deviendront les officiers de l'État congolais aujourd'hui ou demain? Je crois que ça risque d'être un piège pour le gouvernement congolais.
Merci.
D'où ce qui est important ici, nous saluons les efforts du facilitateur, l'ancien président Uhuru Kenyatta, mais il doit aller au-delà de sa volonté d'être facilitateur, c'est-à-dire amener le gouvernement des États membres de l'EAC, parce que l'une des stratégies dans le cadre de résolution des conflits dans les contextes qui est le nôtre dans la région des Grands Lacs, c'était de couper les soutiens et les financements de tous les groupes rebelles. Or, nous connaissons bien que le Rwanda et l'Ouganda apportent la logistique, les soutiens au M23. Mais cette organisation EAC, à laquelle ces États précités appartiennent, n'ont jamais condamné ou n'ont jamais dit à ces États membres de ne pas apporter le soutien logistique au mouvement qui déstabilise l'un des pays membres de l'EAC.
Merci.
Voyez-vous, madame.
Merci. On vous garde encore dans cette émission, Frédéric Amani. On va lire quelques réactions des auditeurs via la page Facebook de Radio Okapi. David Louvati, c'est un appel qui ne produira rien, d'autant plus qu'il n'existe pas de pression contre ces groupes armés sur terrain. Et même si nous allons en négociation, le Congo sera perdant car elle est en position de faiblesse aujourd'hui. Adam Job, bonsoir Madame Kelly. Pendant que nous attendons cette démobilisation, nos compatriotes sont tués tous les jours ici dans la partie est de la RDC. Les dirigeants congolais doivent aller au-delà des mots et agir. Seulement la RDC, je suis en train de découvrir les messages. Je suis d'accord avec le président de la RDC que nous ne devons pas dialoguer avec le M23, mais plutôt les chasser. C'est Adam Job qui nous écrit depuis Bukavu. Alors, mon troisième invité dans ce studio, plutôt dans cette émission, Jonas Tchombela, qui est coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Jonas Tchombela, faut-il négocier avec les M23 ou pas?
Merci, je dois m'acquitter aussi du devoir de sacrer toute ma compassion à la famille de Chérubin Okende, que toute la lumière soit faite sur cette question de son assassinat. Revenant à votre question, faut-il négocier avec le M23? Je crois que le facilitateur lui-même est en train de devenir un problème pour la RDC. Nous n'allons pas oublier très vite que le commandant de cette force qui a été à l'est de notre République venait de son pays et nous savons dans quelles conditions il est parti. Nous savons aussi l'opinion des autorités congolaises sur cette force. Le président a eu bien à dénoncer l'attitude de cette force. Donc là, nous sommes dans un cas de langage presque de sourds où le gouvernement émet sur une certaine position qui n'est pas la même position que les M23, s'il y avait dialogue à faire, en principe, le dialogue devait être organisé avec le Rwanda. Parce que tout le rapport des experts des Nations Unies atteste que les forces rwandaises sont sur notre sol. Prévenir avec la question du dialogue avec les terroristes des M23, c'est comme si on est en train de faire passer la thèse que c'est un mouvement rebelle. Alors qu'on nous dit qu'il y a des forces rwandaises sur notre sol. S'il y a dialogue, dans certaines conditions, c'est avec le Rwanda. Lorsqu'on voit ce qui se passe en Ukraine, la communauté internationale a imposé des sanctions. Pourquoi l'Union africaine, les organisations sous-régionales n'arrivent pas à imposer des sanctions à l'Ouganda et à le Rwanda qui sont en train d'alimenter la déstabilisation d'un pays voisin? Alors qu'on vit aussi de tous les rapports attestent. Maintenant, le M23, dedans, il y a des Congolais. C'est là peut-être que le facilitateur devrait étudier comment dégager ceux qui sont comme Congolais et ceux qui sont Rwandais et qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ceux qui sont là comme Congolais. En plus, quelle est la revendication principale du M23, le terme de référence? Il revendique quoi? On ne connaît pas ça. Donc, demander au gouvernement de négocier, elle est en contradiction de l'opinion congolaise. Tout le monde sait que nous sommes agressés par un pays, et lui-même, le président rwandais, Paul Kagame, l'a attesté au Bénin, et lors de ses présentations publiques au Bénin. Il a des vérités suspensionnées sur notre sortie commis. Et la communauté internationale sait l'intangibilité des frontières. C'est reconnu sur le plan international et doit être respecté partout. Mais dans le cas de la RDC, c'est indifférence de la communauté internationale. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le facilitateur lui-même est devenu un problème, parce que cette force a un agenda qui n'a rien à faire avec la paix, mais un agenda d'accompagner ceux qui déstabilisent la République. Parce qu'ils n'ont jamais, ils étaient ici pour désarmer, sécuriser jusqu'ici, plus de 6 mois après, aucune action qui peut aider. Il y a eu, on a tué même des gens en leur présence. Donc, nous pensons que la solution, elle doit être militaire. Et c'est le gouvernement de la République qui doit beaucoup plus jouer pour quand même organiser l'armée, lui donner les moyens qu'il faut pour défendre nos frontières et les personnes qui vivent. Si nous allons continuer de tournoyer entre temps, les Congolais sont en train de mourir, cette force est-africaine, à notre avis, je crois que c'est l'opinion aussi de beaucoup de Congolais, ne devrait même pas encore continuer à être sur notre sort. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Rien ne se fait. Ils sont même en complicité avec les autres. Je ne sais pas comment notre gouvernement est tombé dans le piège de faire venir ceux qui sont un problème pour trouver la question, pour trouver la paix dans notre pays. L'Ouganda et le Rwanda, c'est connu de tous. Bounagana, c'est à côté de la frontière de l'Ouganda. Comment sont-ils arrivés là-bas? Donc, à ce stade, nous pensons même à ce dialogue-là. S'il y a dialogue, le dialogue doit se faire avec le réel agresseur de notre pays. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. On ne peut plus se leurrer en train de tourner. Tous les chefs de l'État au plus haut niveau ont demandé avec les agendas l'appui. Nous sommes arrivés à aucun résultat avec les agendas. Nairobi, l'Ouganda, on a tourné. Je crois que le pays africain n'arrive pas à s'assumer. Parce qu'il ne peut pas pointer du doigt un autre pays africain qui a été déstabilisé et notre. Et ça, c'est regrettable. Nous allons continuer à jouer avec l'hypocrisie jusqu'où? Il faut combien de morts pour que l'opinion internationale, pour que l'opinion africaine, pour que les organisations sous-régionales comprennent que les Congolais ont tant souffert de cette guerre d'agression. Et ce serait même une façon de consacrer l'impunité. Si nous allons continuer à négocier avec des rebelles, ce qui reviendra encore un jour. N'oubliez pas, les terroristes du M23, ils étaient déjà un mouvement politique. À partir de quel moment sont-ils encore devenus les mouvements rebelles dans notre pays? On les a vus que c'était transformé déjà en mouvement politique. Où sont les bureaux? Les compétitions des forces politiques se font démocratiquement, ne se font pas par armes. Et leur discours, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils réclament à la RDC, si ce n'est que se faire instrumentaliser par l'Ouganda et le Rwanda. Donc merci. Nous estimons pour nous, les dialogues là, ce n'est pas un dialogue qui aura des solutions, c'est un dialogue qui existe de consacrer l'impunité. Il y aura encore brassage, intégration, et nous allons déstabiliser de façon permanente pour infiltrer les institutions de la République de façon permanente, et ça ne pourra nous apporter aucune solution durable par ce dialogue-là prôné par le facilitateur, l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta. Lui-même et son pays sont déjà un problème pour notre pays.
Merci Jonas Tchombela. Serge Bouicha, qui nous suit depuis Facebook, se demande combien de fois faut-il négocier avec ce groupe armé qui n'est rien d'autre que le Rwanda déguisé. Ça sera une humiliation que d'avoir des pourparlers avec le M23. On va ouvrir aussi notre standard pour prendre ces auditeurs qui appellent. Ils sont très très nombreux qui veulent aussi réagir, donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. On va prendre cet auditeur de Kinshasa qui nous appelle. Ce sera pour vous, Timothée.
Espérant Jardel Ilunga Bayamba de Kinshasa. Il est vrai que la meilleure solution pour régler les conflits, c'est le dialogue qui est la voie pacifique. Mais à cet effet, on se pose la question de savoir les mobiles des dialogues et qui sont les parties prenantes pour enfin trouver la légitimité de ce processus et mettre fin à la guerre définitivement sur cette partie du pays. Par ailleurs, si la communauté internationale a reconnu l'appui et l'implication de l'armée rwandaise dans ces affres et tueries, elle doit aussi demander au gouvernement rwandais de dialoguer avec le gouvernement congolais et non les M23 comme partie prenante de ce processus.
Timothée Tshaombo, si dialogue il y a, c'est entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, comme l'a dit aussi Jonas Tshombela tout à l'heure, et non le mouvement rebelle M23.
Oui, si vous vous rappelez, je crois que tous mes co-débatteurs, même les auditeurs des radios Capi, se rappellent comment j'ai planté les décors il y a un an sur cette question. Si nous traitons le M23 comme mouvement terroriste, c'est que nous avons mis la croix aux négociations et qu'il faut l'écraser avec les moyens militaires et qu'il faut négocier avec le pays agresseur qui soutient en logistique et en moyens humains le M23. Mais est-ce que vous avez entendu, lorsque le Uhuru Kenyatta a parlé de négociations, a-t-il fait allusion au Rwanda? Non. Il a fait allusion à tous les groupes armés, y compris le M23. Deuxième chose, les mobiles du M23, d'ailleurs le mouvement M23 signifie les accords signés entre Joseph Kabila et ce mouvement. Donc toutes les revendications, qu'ils réclament des terres, des grades, etc. Je suis parfaitement d'accord avec Jonas Tshombela et même mon frère Espérant de Kinshasa que ça sera un cercle vicieux parce que pour eux, la question, ils veulent des terres. Ils veulent des terres et Paul Kagame l'a dit. Mais la faute est à qui, Jonas Tshombela? La faute n'est pas au Uhuru Kenyatta qui appartient à l'EAC. C'est pas la communauté internationale. C'est la faiblesse des autorités congolaises dans leurs décisions. Parce que si aujourd'hui il y a une plainte qui est déposée à la Cour pénale internationale, que l'on ferme les frontières, que l'on expulse, on ferme l'ambassade du Rwanda chez nous, les choses vont aller. Deuxième faute du gouvernement congolais, et même la première, c'est d'être parti adhérer, je l'ai rappelé dans plusieurs émissions ici, et même en face du professeur Joly, d'aller adhérer à EAC. Madame Kelly, savez-vous que l'article 4 de la charte qui crée l'EAC dans le volet capacité juridique de cette communauté dit que la communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'être en justice et d'être poursuivi devant des tribunaux en son propre nom. C'est-à-dire que la RDC est allée dans une communauté sans lire, sans étudier qui font partie de cette communauté. C'est les pays agresseurs. Quelle est leur charte? Qu'est-ce que dit la charte? Aujourd'hui, Kagame a déposé une lettre, si vous ne savez pas, à EAC pour réclamer les terres congolaises. C'est ainsi qu'il en a parlé à son voyage au Bénin. Donc la question qui est ici, effectivement, c'est le Rwanda qui joue le jeu, mais le gouvernement congolais est tombé pour n'avoir pas mené des études qu'il faut dans l'adhésion à EAC, et c'est le même gouvernement congolais qui continue à prolonger la durée de cette mission qui a échoué, mon frère de Lumbashi l'a rappelé tout à l'heure. Mais pourquoi l'EAC reste dans ce pays? C'est pour ça que j'avais dit lors de la dernière mission, je crois du 19 avril ici, que la réponse que la SADC a donnée était une réponse diplomatiquement polie pour dire « oui, il faut y avoir un sommet de clarification parce que vous devez mettre de l'ordre, parce qu'on ne peut pas faire venir des troupes à la fois de la SADC, nous avons les troupes de la MONUSCO, nous avons les troupes de FRDC qui est propriétaire du sol, nous avons les troupes de EAC. Madame, il s'agit des hommes en armes. Et la psychologie militaire n'est pas la même chose de gestion, n'a pas le même modus de gestion que la psychologie humaine. Et donc il faut faire attention lorsqu'on invite énormément de troupes. Nous sommes en train de vivre une question de la gazanisation du Kivu. On va amener énormément de troupes. C'est une zone de non-droit où effectivement l'État congolais perd le contrôle, mais qu'il y a différentes sortes de commandements, mais c'est de la faute de l'État congolais. Si aujourd'hui on met les moyens, qu'on écarte de l'armée nationale tous ces militaires qui sont commerçants, des officiers commerçants, que l'on frappe sur le M23, effectivement que nos compatriotes qui vivent dans ces territoires vont payer les lourds tributs, nous récupérons le territoire congolais. C'est ainsi que lorsque nous constatons qu'il y a faiblesse, ou même, pas seulement la faiblesse, moi je peux pas parce que cette armée-là, c'est avec cette armée que Moutebousi, Jules Moutebousi, Kounda Batoire et même Mamadou Ndala a mis en déroute le M23, cette armée a énormément des hommes. Mais le problème c'est que lorsqu'on constate qu'on risque d'augmenter les bilans, et alors allons sur, parce que finalement, que ce soit guerre, ou quoi que ce soit, nous finirons par négocier soit avec Paul Kagame, si nous utilisons les moyens qu'il faut pour rééquilibrer les rapports de force, ou nous finirons par parler avec le M23. Nous
merci, ici, Mme Timothée Tshaombo. On va organiser une autre émission madame. Sûrement sur cette question. Frédéric Kamani, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Moi, c'est Mike Kaité, depuis la ville de Lubumbashi. Bien, nous, la population congolaise, en avons marre de cette redite de dialogue qui demeure toujours stérile face à cette crise sécuritaire qui perdure à l'est de mon pays. Moi, je pense que cette responsabilité incombe l'État congolais de bien prendre les choses en main et de ne pas être distrait par des dialogues. Car on doit savoir que la paix à l'est ne sera rétablie que quand le gouvernement équipera l'armée congolaise et passer à une attaque offensive, mais pas les dialogues.
Frédéric Amani, réaction.
Merci beaucoup. Je salue l'auditeur de Lubumbashi, c'est Mike Kaité. Je crois bien avoir suivi sa question, que la question des dialogues est en train de distraire le gouvernement congolais. Moi, je pense que ce qu'il faut faire par rapport à ces dialogues ou ces travaux qui sont menés pour le rétablissement de la paix, c'est d'évaluer les options, les trois options que le gouvernement congolais a toujours mises en place pour la paix et la sécurité à l'Est. Qu'est-ce que l'option politique a donné? Qu'est-ce que l'option diplomatique a donné? Qu'est-ce que l'option militaire a donné? Ou bien, quelles sont les stratégies dans chacune d'options qui peut être mise en place pour permettre à ce que qu'il n'y ait pas de dialogue, parce que pour le gouvernement congolais, on ne veut pas les dialogues, mais au-delà des dialogues, on doit avoir un rapport de force supérieur à l'ennemi. Mais dès lors qu'il n'y a pas ces rapports de force supérieurs à l'ennemi, eh bien, on a beau dire que on est agressé, c'est un groupe terroriste, mais sur le terrain, c'est la réalité est tout autre. Et ensuite, si on a besoin de dialogue ou de la facilitation venant de l'extérieur, quelle est la contrainte que l'EAC ou les facilitateurs ou la communauté internationale fait vis-à-vis du M23, vis-à-vis des pays agresseurs, pour les contraindre à abandonner la hache de guerre et à soutenir les efforts de paix et de sécurité. Donc, l'auditeur a montré son inquiétude, mais moi je pense que le gouvernement ne devrait pas vraiment se contenter des dialogues, parce que les dialogues pour la paix et la sécurité à l'Est, il y en a eu beaucoup. Beaucoup de dialogues, mais vous connaissez
pour
les résultats.
Le gouvernement devrait utiliser la force.
La force, mais en mesurant les rapports de force sur le terrain. La force, oui, mais et le gouvernement doit mesurer de sorte qu'elle ne tombe pas dans un piège. Je suis pour la paix et la sécurité à l'Est, mais quelle est l'option qui semble être bien partie pour l'utiliser afin que la paix et la sécurité reviennent?
Merci Frédéric Amani. Jean-Claude Sibomana pense que la RDC doit donner sa position claire face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, soit soutenir le processus de paix dans le but de soulager la population qui a longtemps souffert, soit faire valoir son rapport des forces en traquant les groupes armés qui font obstacle au processus de paix. Hervé Tchatcha Kaniki lui pense que la population est fatiguée hein, de l'approche de la sous-région. Nous-mêmes Congolais sommes prêts à nous prendre en charge. Jonas Sombela, on va prendre cette dernière réaction pour vous, une réaction qui nous vient de Goma.
Bonsoir Radio Okapi, je suis Maître Meshak Mouchagalousa depuis la ville de Goma. Le langage de M. Ouvre Kenyatta jusqu'à présent prouve à suffisance que dans ces conflits, il est à la fois juge et parti. On se demande qui croit pendant que les facilitateurs du processus de Nairobi pensent au dialogue. De l'autre côté du gouvernement, le président Félix ne cesse de dire tout haut qu'il n'y aura pas de dialogue avec les terroristes du M23. À ce stade, que devons-nous attendre? Quel est l'intérêt de l'EAC dans cette crise pour qu'elle tienne mordicus au dialogue? Quelles sont les raisons qui empêchent aux troupes de l'EAC de lancer des offensives contre les terroristes du M23?
Alors, Jonas Tumbela, tant de questions que se pose cet auditeur, Maître Jomès, qui nous appelait de Goma.
Je crois que Maître est en train de rencontrer ma préoccupation. J'ai commencé par dire ici que le facilitateur, l'ancien président Uhuru Kenyatta, est en train de devenir lui-même un problème. Et là, il est dans une dynamique de divertir l'opinion congolaise qu'on recherche la paix, alors qu'il y a toute une force qui a été mobilisée pour donner la paix, ou bien donner la chance à la paix, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Nous pensons qu'ils sont venus en tourisme sur notre sol. Il est grand temps. Et c'est là que je rejoins mon frère Timothée. Effectivement, notre gouvernement est tombé dans le piège de plus malin. Je ne suis pas ici en train de dédouaner le gouvernement sur sa responsabilité en allant adhérer à cette communauté d'hypocrisie où il y a les agresseurs dedans. Et aujourd'hui, nous sommes tombés dans leur piège. Cette force en tourisme sur notre sol devrait normalement rentrer. C'est du gaspillage de fonds, soit des pays qui les ont envoyés ou la RDC, alors qu'on pouvait prendre ces fonds, continuer à donner les moyens à nos forces armées. Nous croyons à nos forces armées. C'est pour cette raison que je dis que la force, normalement, la solution, elle est militaire. Elle doit venir que de nos forces. C'est question de réorganiser notre armée, de lui donner les moyens. La population toute entière est intéressée de soutenir cette force nationale. Mais la force est-africaine, en tout cas, elle n'a plus sa raison d'être plusieurs mois après. On n'a aucun acte, aucun impact sur ce qu'ils devraient faire. Ils ne le font pas. Alors, il y a un agenda double qui est piloté effectivement par le facilitateur. C'est pourquoi il y a un problème. Donc, ce double langage qui se traduit par leur comportement sur le terrain, on se souviendra, le chef de l'État, dans un sommet au Burundi, comment il parlait avec le chef, le commandant de ses forces, qui était à l'époque le Kenya, et même quand on en met un nouveau, on a eu toujours des problèmes. Je pense que gouvernement de la République doit faire attention de continuer éternellement à prolonger le mandat de ces forces africaines qui sont en train de consolider les forces hostiles à la République en complicité avec le Rwanda et l'Ouganda.
Merci Jonas Tumbela, nous sommes à la fin de l'émission. On va considérer cela comme votre conclusion. Jean Kalumbu, depuis Lubumbashi au Katanga, ce qui est à savoir, avant tout dialogue qui est la piste proposée par le facilitateur, c'est de savoir, de connaître d'abord les revendications du M23. Timothée, en 30 secondes, nous sommes à la fin de l'émission. Votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que le processus de réforme de notre armée est en cours. C'est en cours moyen à long terme. Donc cela se fera dans le temps. Les choses d'État a amorcé cela déjà. Mais sur le plan au Kivu, il faudrait que nos populations participent aux élections. Il faut que nos populations vaquent à leurs occupations. Il faut absolument que l'État congolais puisse restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national en utilisant les trois options. Option militaire, politique et diplomatique.
Merci. Timothée Tchaombo, Frédéric Amani.
En conclusion, il est plus que temps que la RDC redevienne un État capacitaire répondant à ses missions régaliennes. D'aider, il faut que la RDC se dote d'une politique claire de défense et de sécurité afin d'imposer son autorité de l'État dans cette partie. Et enfin, que la RDC n'oublie pas les propos du président burundais et Kenya, que la force régionale sortira de l'Est jusqu'à ce que la RDC se dotera d'une armée. Il ne faut pas oublier que les ambitions expansionnistes de certains pays de l'Est de la RDC sont en train d'être mises en place. Il est temps que la RDC se réveille afin que les mauvais scénarios puisse se matérialiser.
Merci Frédéric Amani, merci à Disiplek Makassi qui nous écrit depuis Lubero, Nord Kivu. De toute façon, le dialogue reste le pilier de la paix. J'encourage le dialogue. Il est le coordonnateur principal de l'organisation JAP DRDC ASBEL depuis le territoire de Lubero, Nord Kivu. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Donna Madimba qui l'a réalisé. La mise en onde était assurée par Jean-Claude Siala. Merci à Billy Betou et Jonathan Pluto et Clément Chimanga, voilà, qui nous ont aidé à passer en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Moi, c'est Kelly Nkouté, voilà. Je vous ai présenté ce magazine. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.